Épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Et c'est bon pour moi d'être avec vous ce matin, après quelques semaines de vacances en famille. C'est bon de se retrouver avec la famille de Dieu, d'être avec vous. Et puis, en réfléchissant aux vacances, tu sais, on a passé un bon temps ensemble. On est allé visiter quelques églises de notre association, entre autres à l'église, des églises qu'on entend dire du bien. On est allé visiter l'église de Terrebonne et l'église Emmanuel de l'ouest de l'île et on a été bénis de voir l'œuvre de Dieu dans ces autres églises-là. Mais c'est bon de se retrouver chez nous, n'est-ce pas? D'être en famille, d'être avec vous ce matin. Juste avant de commencer, j'avais sur mon cœur de vous partager quelque chose. Que j'ai pas eu l'occasion de faire depuis le moment où c'est arrivé. À la dernière réunion annuelle, vous avez accepté avec une grande majorité mon embauche ici à l'Église de l'Espoir. Et puis, ça a été vraiment une marque d'amour incroyable envers notre famille, envers Cynthia et moi. Mais c'est une joie incroyable aussi de pouvoir être ici après 13 ans. Et de pouvoir voir l'œuvre de Dieu dans ma vie, voir comment Dieu, maintenant, veut m'utiliser ici et que vous avez approuvé ça, vous avez confirmé ça avec l'embauche et qui débute en septembre. On voit les offrandes qui vont bien aussi dans les dernières semaines. Gloire à Dieu pour ça. Mais vraiment, je veux vous remercier du fond du cœur et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir servir au milieu de vous et de pouvoir... continuer l'œuvre que Dieu a commencée dans nos cœurs et qui va rendre parfaite jusqu'au jour de Christ et que Dieu puisse faire cette œuvre-là, pas juste dans les cœurs ici, mais dans les cœurs qui sont à l'extérieur de l'Église, qu'on puisse gagner des âmes pour lui et voir l'œuvre de Dieu dans cette Église. Et vraiment, merci beaucoup. Et maintenant, on va regarder ensemble le passage dans l'Épître aux Romains, Romains 6, et je vais lire les versets 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, comme on vient de l'entendre dans ce merveilleux chant qu'on a entendu, tu es un Dieu merveilleux, un sauveur merveilleux, qui a donné sa vie en rançon pour nos péchés, pour que nous puissions vivre pour toi. Seigneur, un jour, tu es entré dans ma vie, tu as captivé mon cœur pour qu'il t'appartienne et pour que ma vie te glorifie. Et ce matin, c'est ce que je veux faire, être ton serviteur, un simple serviteur entre tes mains, un outil entre tes mains, un instrument pour accomplir ta volonté, pour te glorifier. Seigneur, on a beaucoup de choses à apprendre de ce passage ce matin. Parle à nos cœurs. Viens faire ton œuvre en nous, Seigneur. Que nous puissions être des enfants obéissants, des enfants qui vivent pour toi et qui cherchent à te plaire en toutes choses. Seigneur, par ton esprit, viens nous parler, viens nous réveiller si on a besoin d'être réveillé. Viens nous montrer nos péchés si on a besoin de se repentir, de se tourner vers toi. Viens faire ton œuvre en nous pour qu'on puisse être des enfants obéissants à ta parole. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Il y a deux semaines, notre pasteur Yannick a terminé une série de prédications dans l'Évangile de Matthieu. Et puis, cette série qui a duré 3 ans, je pense qu'il l'a mentionné, 3 ans dans l'Évangile de Matthieu, se terminait avec un accent particulier sur le mandat que le Seigneur a confié à ses disciples et à son Église. Et dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, vous connaissez bien, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ce mandat que le Seigneur a confié à ses disciples et à son Église, on voit 3 éléments principaux qui composent ce mandat-là. Le premier, c'est de faire des disciples. Le deuxième, c'est de les baptiser. Et troisièmement, de les enseigner à observer la parole de Christ. Même si le mandat du Seigneur est clair, c'est pas compliqué. Formez des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. On va se concentrer ce matin sur un aspect qui peut être négligé parfois dans la vie des croyants et même dans certaines églises. La deuxième partie de ce mandat-là, qui est de baptiser et de passer par les eaux du baptême. Certains pensent que, à cause d'une mauvaise compréhension, peut-être de l'enseignement du baptême dans les Écritures, certains pensent que le baptême, c'est un simple rituel, simplement une tradition que l'Église observe, qu'on a reçu comme héritage de ceux qui nous ont précédés, mais que tout simplement, on fait ça. Quelqu'un vient au Seigneur, donc il se fait baptiser. C'est juste une tradition. On continue ce que les gens qui nous ont précédés nous ont laissé. Mais est-ce que le baptême est vraiment un simple rituel? Est-ce que c'est juste une tradition? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus important derrière ça? Est-ce que le baptême n'aurait pas une signification qui fait en sorte que c'est important pour l'Église et pour chaque croyant d'observer cette pratique-là? Et si c'est important, qu'est-ce que ça peut bien changer à notre vie, le baptême? Est-ce que ça a une implication pour ceux qui sont baptisés? Est-ce que ça a une implication dans leur vie? Ce matin, à partir du passage qu'on a lu dans l'Épître aux Romains, on va découvrir ensemble des réponses à ces questions-là. Et pour ce faire, on va regarder grossièrement 3 questions pour nous aider à comprendre. Qu'est-ce que c'est le baptême? Qu'est-ce que c'est sa signification et quelle en est l'importance? Premièrement, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la signification du baptême? Qu'est-ce que c'est le baptême et qu'est-ce que ça représente? Que représente-t-il? La deuxième question, pourquoi le baptême est-il important? Les Écritures nous parlent de cela, d'observer. Le Seigneur Jésus nous a donné ce commandement-là. Pourquoi c'est important de l'observer? Et troisièmement, qu'est-ce que le baptême peut bien changer à ma vie? Qu'est-ce que ça a comme implication dans ma vie à moi aujourd'hui? En 2010. Premièrement, qu'est-ce que le baptême et qu'est-ce que ça représente? Dans notre texte de ce matin, on voit l'apôtre Paul répond à une question qui peut être soulevée, qui pourrait être soulevée à la suite de tout ce qu'il a dit auparavant dans Romains, dans les chapitres 1 à 5. Le passage de Romains 6 se situe dans un contexte et dans Romains 1 à 5, Paul va expliquer certaines choses très importantes à comprendre et on voit un certain résumé de tout cet exposé-là dans le Romains 3, les versets 23 à 26. Et je vous invite peut-être juste à tourner quelques pages un petit peu avant dans votre Bible et on va lire chapitre 3, versets 23 à 26. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, en résumé, dans les premiers chapitres, chapitres 1 à 5 de l'Épître aux Romains, Paul va démontrer que tous les hommes, sans exception, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu pour l'éternité à cause du péché. Mais, quand Jésus-Christ, ils peuvent avoir la paix avec Dieu et être rendus justes devant Dieu, être justifiés. De coupables qu'ils étaient à cause du péché, ils peuvent maintenant paraître justes devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est une grâce qui est gratuitement donnée de la part de Dieu. Et c'est ça qui est expliqué dans les chapitres 1 à 5. Mais la question qui peut être soulevée à la suite de ça se trouve dans Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? En d'autres mots, si on est justifié par la foi dans la grâce que Dieu a donnée, si c'est gratuit ça et que Dieu manifeste sa grâce, une grâce tellement grande envers moi qui suis pécheur, est-ce que cela ne pourrait pas ouvrir la porte pour que je puisse continuer de pécher? Continuer de pécher pour que, dans un sens, la grâce de Dieu soit encore plus grande et que Dieu manifeste sa gloire à travers ça. Est-ce que c'est ça vraiment que Paul est en train de dire? Que par la foi en Christ, je suis justifié, donc je peux continuer de pécher et tout ce que ça va faire, c'est que la grâce de Dieu va être encore plus grande et gloire à Dieu pour ça. Est-ce que c'est ça? Absolument pas. Absolument pas. Et dans la suite du chapitre 6, Paul va employer une illustration. Une image de quelque chose qui s'est passé lors de notre conversion et qui se passe aussi lors du baptême. Et cette image-là va être utilisée pour montrer que non, on ne devrait pas continuer dans le péché, mais qu'on devrait maintenant vivre pour la gloire de Dieu. On voit ça, entre autres, au verset 3 et 4 de Romains 6 que je vais relire. Donc, la réponse, je vais partir à partir du verset 2. Donc, la réponse à la question... Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Par l'explication que Paul donne dans ces versets-là, il démontre ce qui s'est passé dans la vie du croyant et qui est illustré dans le baptême. L'illustration démontre clairement, et on peut comprendre la véritable signification du baptême à travers cette explication. Parce qu'en fait, le baptême représente quelque chose. Ça représente quelque chose qui s'est passé, un événement qui s'est passé un jour dans ma vie, à un certain moment donné, et la réalité qui découle de cet événement-là. Le baptême, ce n'est pas un acte miraculeux en soi. Ce n'est pas quelque chose comme d'extraordinaire qui vient, comme certains vont penser que ça va pardonner les péchés. Il n'y a rien de miraculeux dans le fait du baptême. Mais c'est plutôt une image d'une réalité qui s'est passée dans la vie du croyant et qui perdure. Il représente le moment de notre conversion, le moment où nous nous sommes repentis de nos péchés et qu'on s'est tourné vers Jésus-Christ pour obtenir sa grâce. Il démontre notre union à Jésus-Christ par la foi en lui. C'est ce que le baptême démontre. Donc, en résumé, le baptême, c'est un acte qui démontre publiquement que nous sommes unis à Christ. Mais comment le baptême démontre-t-il exactement notre union à Christ? Et c'est là que Paul va développer dans le reste du passage. Premièrement, on voit que nous sommes unis à Christ de deux façons. Premièrement, nous sommes unis à Christ dans sa mort. Le baptême nous parle de la mort de Christ. Pour plusieurs aujourd'hui, le message de l'Évangile, c'est un message farfelu, que Dieu se soit incarné pour venir vivre sur la terre et finalement finir sa vie clouée sur une croix, condamnée par des chefs religieux juifs, et cloué sur la croix par des soldats romains, une bande de soldats romains, ça, c'est tout à fait absurde. C'est de la folie pour le monde, pour plusieurs des gens autour de nous aujourd'hui. En fait, s'il était vraiment Dieu, pourquoi il ne les a pas tous exterminés d'être là, montré sa puissance extraordinaire et montrer qu'il était vraiment Dieu? Pourquoi il est allé jusqu'au bout, puis finalement terminer sa vie, comme j'ai déjà entendu dire, comme un loser sur la croix? Parce qu'en fait, par la mort de Christ, Christ venait faire, venait accomplir quelque chose. Il venait rétablir une relation qui avait été brisée entre l'homme et Dieu. Une relation qui avait besoin d'être établie. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Verset 10 dans Romains 6, si vous voulez le souligner. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'est pas terminé. Ça n'a pas été la fin de l'histoire, comme on a entendu avec Yannick. La fin de l'histoire, sa crucifixion. Mais Jésus, c'était son intention. C'est lui-même qui s'est livré à la croix pour que cette relation entre Dieu et les hommes puisse être rétablie. Puisque, en fait, je suis devant Dieu coupable à cause de mon péché, Dieu ne pouvait pas me laisser entrer dans sa présence et j'étais coupable devant Dieu. Mais Jésus est venu accomplir la justice de Dieu en mourant à la croix pour mes péchés. Lui qui était parfait, qui a vécu une vie juste, sans péché, était la personne parfaite pour venir accomplir ce que et venir recevoir la condamnation que moi je méritais. Ce que Christ a accompli à la croix, ce qu'il a reçu, c'est la condamnation de Dieu à cause de mon péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Il est venu rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Jésus était le seul à pouvoir faire cela. Et la parole de Dieu nous dit que c'est le châtiment qui est tombé sur Jésus-Christ. C'est moi qui devais le recevoir. En prenant la condamnation à ma place, Jésus a accompli la justice de Dieu. Et maintenant, par la foi dans ce sacrifice-là, je peux être justifié devant Dieu. Je peux être rendu juste. J'étais coupable, mais par la foi en Christ, je peux être reconnu comme non coupable, juste, et ne pas recevoir la condamnation que Dieu a réservée. Et mais même si plusieurs pensent que ce message-là est farfelu, ce qui est important, c'est que Dieu ne considère pas ça comme farfelu, mais que Dieu voit en Christ la justice de Dieu accomplie et que maintenant on peut être sauvé. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité, aller au ciel pour l'éternité, être sauvé de la condamnation qui pèse sur toi, de la mort éternelle, tu as besoin de reconnaître qu'en Christ seul, tu peux être sauvé, par la foi en lui seul. Tu as besoin de reconnaître ton péché, que Jésus est mort pour tes péchés, t'en repentir et placer ta foi en lui, pour que tu puisses être rendu juste devant Dieu et accéder à la présence de Dieu. C'est ce que le baptême démontre. Il parle de la mort de Christ, mais aussi il parle qu'en plaçant notre foi en Christ, on s'est identifié à lui, on a été unis à lui dans sa mort. Maintenant, si Christ est mort à la croix, moi je ne me rappelle pas d'être mort sur une croix. Qu'est-ce que exactement cela a à voir, mon union avec Christ? Si Christ est mort sur la croix, comment est-ce que je suis uni à Christ dans la mort? La réponse se trouve dans les versets 5 à 7. On va les lire. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, ou on pourrait dire si nous avons été unis avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et en fait, ce qui a été crucifié avec Christ, comment j'ai été uni à Christ dans sa mort? C'est parce que moi, ma vieille nature, le vieux Alexandre en moi, a été crucifié avec Christ sur la croix. Il est mort avec Christ, uni à Christ dans la mort à la croix. Paul va dire dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Et c'est cette vieille nature, ce vieux Alexandre qui avait un cœur rebelle contre Dieu, qui ne cherchait qu'à plaire à lui-même, qui était égoïste et qui ne cherchait pas à plaire à Dieu. C'est ce Alexandre-là qui est mort à la croix avec Christ. Donc, ce vieux Alexandre est crucifié avec Christ pour que je ne sois plus esclave du péché, mais qu'au contraire, je sois rendu libre afin de vivre pour Dieu. Et c'est comme ça que j'ai été uni à Christ dans sa mort. comme Christ est mort pour nos péchés, qui a été crucifié pour qu'on puisse être pardonné, notre vieille nature a été crucifiée avec Christ pour qu'on puisse être libéré du péché et maintenant pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Christ, à travers sa mort à la croix, à travers le fait que je place ma foi en lui, ma vieille nature a été crucifiée avec lui. Et ainsi, le baptême, c'est ce que représente le baptême, qu'on a été crucifié avec Christ et puis que ma vieille nature est morte avec Christ. Et comment ça le représente? Là, ça devient de plus en plus pratique. Parce que le baptême, c'est une image. Je l'ai mentionné, c'est une image qui nous démontre qu'on est mort avec Christ. Et lorsqu'on pratique le baptême, on le pratique à la manière de ce qui était dans le Nouveau Testament. Et le verbe « baptiser » dans le Nouveau Testament vient du grec « baptizo » et qui veut dire « immerger, plonger ». Et lorsqu'on baptise ici, on baptise dans un bassin d'eau, pour ceux qui ne sont pas habitués, on baptise dans un bassin d'eau et la personne est complètement immergée dans l'eau. Et le baptême est ainsi une image que lorsque la personne descend dans l'eau, elle est complètement enterrée ou ensevelie pour démontrer qu'elle est unie à Christ dans sa mort. Elle est en train de démontrer, en étant plongée dans l'eau, que par la foi en Christ, sa vieille nature est morte, a été crucifiée avec Christ et que maintenant elle veut vivre pour Dieu. C'est ce que le baptême représente, que nous sommes unis à Christ dans sa mort pour nos péchés, parce que maintenant nous sommes morts au péché et que nous sommes libres du péché. La deuxième chose que le baptême représente, c'est que nous sommes unis à Christ dans sa résurrection. Et on voit ça dans les versets 8 à 10. Romains 6, versets 8 à 10. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus-Christ est ressuscité des morts pour démontrer qu'il avait le pouvoir sur la mort, pour que le péché soit réduit à l'impuissance. Et la raison pour laquelle on peut obtenir le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés, mais c'est parce qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Par sa résurrection, le texte nous enseigne que Jésus a démontré qu'il avait le pouvoir sur la mort. Lui qui est mort pour nos péchés, il n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté dans la mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est revenu à la vie et aujourd'hui il est vivant. Et la puissance de Christ sur la mort et le péché a été manifestée par sa résurrection. Et c'est par la puissance de Christ et par sa résurrection qu'on peut être sauvé. Jésus est vivant, il a le pouvoir de nous donner une vie nouvelle. Le vieil homme a été crucifié, mais maintenant j'ai le pouvoir, à cause de la résurrection de Christ, d'avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu la mort et le péché. Et donc, en plaçant ma foi en Jésus-Christ, je suis ressuscité pour marcher dans une nouvelle vie, pour marcher dans une vie nouvelle. Maintenant que le vieux Alexandre est mort sur la croix, celui qui avait le cœur rebelle, il a été crucifié celui-là. Et maintenant, je ne suis plus esclave du péché, mais je suis ressuscité avec Christ et désire vivre pour plaire à Dieu, pour la gloire de Dieu. Et cette nouvelle vie, c'est Christ qui nous l'a donnée par la puissance de sa résurrection. On lit dans 2 Corinthiens 5, 17, encore une fois un verset qu'on connaît bien, mais qui exprime tellement bien cette vérité. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Aujourd'hui, je ne suis plus le même parce que Christ a fait de moi une nouvelle personne. C'est-à-dire que le cœur dur, le cœur de pierre que j'avais a été transformé en un cœur de chair, en un cœur plus sensible à la parole de Dieu, plus malléable par Dieu, afin que je puisse vivre pour Dieu. Non plus vivre pour moi, mais vivre pour Dieu et vivre pour sa gloire. Ce qui m'était autrefois impossible, c'est-à-dire de glorifier Dieu par ma vie, impossible. Maintenant, par la foi, est rendu possible parce que Christ habite en moi par son esprit. Et maintenant, j'ai un amour pour Dieu et un désir de lui plaire. Est-ce que je suis parfait? Demandez à ma femme. Elle va vous le dire. Je suis loin d'être parfait. Mais lorsque je laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre en moi, je réalise que le vieux Alexandre a été crucifié avec Christ. Et je découvre dans mon cœur un amour pour Dieu, un amour pour la gloire de Dieu et désir de plaire à Dieu. C'est ça le changement qui s'est produit en nous lorsqu'on s'est converti à Christ et qu'on voit à travers le baptême. Et c'est ce que le baptême représente. Le baptême représente que nous sommes unis à Christ aussi dans sa résurrection. Lorsqu'on pratique le baptême par immersion, évidemment, pratiquement parlant, la personne ne reste pas dans le fond de l'eau. Elle est morte, là. On voit qu'elle est morte, crucifiée avec Christ, mais quand même, on va la relever afin qu'elle puisse vivre pour Dieu. Mais c'est ça qu'elle représente. Elle représente qu'elle revient de la mort pour pouvoir vivre pour Dieu. Et lorsqu'on relève la personne est en train de démontrer qu'elle s'unit à Christ dans sa résurrection pour vivre une vie nouvelle. Et c'est ça qu'on est en train de représenter à travers le baptême, cette image qui représente la mort, l'union de la personne à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Tellement de choses à dire. Mais on va continuer. Mais ce n'est pas juste ça. Pas juste ça. Le baptême démontre que nous sommes maintenant ressuscités avec Christ, mais il pointe vers une résurrection encore plus grande qui s'en vient. Parce que je ne suis pas complètement délivré de la chair. J'ai encore à lutter avec le péché. Mais un jour, lorsque Christ va revenir, je vais être délivré de cette chair-là pour pouvoir entrer au ciel, être transformé et maintenant vivre sans péché pour la gloire de Dieu. Et c'est ça que le baptême représente. Pas juste que la personne est ressuscitée pour vivre une vie nouvelle maintenant jusqu'à sa mort, mais aussi qu'un jour, on va ressusciter, on va être changé et on va être avec Christ pour l'éternité et le glorifier pour le reste, pour l'éternité. Et voilà. Au siècle des siècles. Et Paul nous parle de cette réalité-là. On n'a pas le temps d'aller lire le passage. C'est tellement un beau passage. Mais si vous voulez, prenez-le en note. 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 57. Et donc, par le baptême, on se rappelle qu'on est ressuscité avec Christ, mais aussi qu'un jour, notre corps corruptible va être changé afin qu'on puisse vivre éternellement pour la gloire de Dieu. Ainsi, le baptême représente notre union à Christ dans sa résurrection, parce qu'il nous a donné une vie nouvelle en lui, et qu'un jour, on va être ressuscité pour vivre éternellement. C'est ça la deuxième chose que le baptême représente. Donc, si on veut résumer tout ça, là, on a dit beaucoup de choses. Pour résumer le tout, par le baptême, on déclare que nous avons cru en Jésus-Christ. On déclare qu'en plaçant notre foi en lui, on a été unis à lui dans sa mort et sa résurrection. Et donc, le baptême est un acte extérieur qui démontre publiquement que nous sommes morts au péché, que nous vivons pour Dieu, quelque chose qui s'est passé intérieurement. Et le baptême est une manifestation extérieure de ce qui s'est passé en nous. Maintenant qu'on a vu ensemble que ce qu'est le baptême, sa signification, ça m'amène à répondre à la deuxième question qui était « Pourquoi le baptême est-il important? » Et je vais devoir réduire un petit peu cette partie-là, mais c'est important pour moi de parler de pourquoi le baptême est important. Premièrement, parce que Jésus-Christ nous a donné ce commandement. Comme on l'a vu dans Matthieu 28, la raison principale pour laquelle nous devons être baptisés, c'est parce que c'est un commandement qui nous a été donné de la part de Jésus-Christ. Il nous demande en tant que disciples et comme Église de faire de toutes les nations des disciples, mais aussi de les baptiser. Et s'il nous demande ça comme disciples, de baptiser les gens, il va de soi que le nouveau disciple qui se convertit à Jésus-Christ doit se faire baptiser, n'est-ce pas? Et on voit ça aussi comme un commandement de Dieu et c'est pour ça que c'est important. On voit dans le livre des Actes, et c'est rempli d'exemples dans le livre des Actes. Mais entre autres dans Acte 2, et j'aimerais le lire, lire ce passage-là. Acte 2, les versets 37 et 38, et ensuite le verset 41. On voit un événement que lorsque l'Église commence, au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va proclamer l'Évangile, et puis ça provoque quelque chose dans le cœur de ceux qui ont entendu. Acte 2, verset 37. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, ici, ça devient non pas un commandement envers les disciples qui doivent baptiser, mais envers ceux qui se convertissent. Faites-vous baptiser, repentez-vous et soyez baptisés. On voit d'autres exemples. On voit, entre autres, au verset 41, que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et au cours du livre des Actes, plusieurs exemples comme ça. Acte 8, Philippe parle à un Samaritain. Le Samaritain se convertit, il se fait baptiser. Plus tard, dans Acte 9, on voit la conversion de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se convertit, il se fait baptiser. Pas très longtemps après. Corneille, la même chose. Toute sa famille se convertit, fait baptiser. Le geôlier, Acte 16. Crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, crois en Dieu. Il se fait baptiser. Pas compliqué. Tu crois, tu te fais baptiser. That's it! Pas compliqué. C'était une petite inside avec mes jeunes de collège et carrière en passant. That's it. C'est pas compliqué. Tu crois, tu te fais baptiser. Mais la deuxième raison pour laquelle c'est important, puis on en a parlé en long et en large dans l'exposition de qu'est-ce que c'est le baptême, c'est parce que par le baptême, on annonce publiquement notre union à Jésus-Christ. Et comme on l'a dit, on proclame ouvertement qu'on est uni à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et ça me fait penser au mariage. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Parce que tout comme le mariage démontre publiquement que j'unis ma vie avec mon épouse ou mon époux, dépendamment quand vous vous mariez. Si moi, c'était mon épouse en passant. Lorsque j'unis ma vie à mon épouse, je suis en train de le dire publiquement par le mariage. Je suis en train de dire, voici cette femme-là, c'est celle que j'aime et c'est celle avec qui je veux marcher pour le reste de mes jours. Mais le baptême, ça me fait penser à ça aussi. Parce que par le baptême, on est en train d'exprimer quelque chose qui s'est passé intérieurement. Qu'un jour, on a été unis à Christ. Et maintenant, je veux le démontrer publiquement, dire à tout le monde autour de moi que je suis uni à Christ et que maintenant, je veux marcher avec lui pour le reste de mes jours. Et ça, c'est la gloire du baptême. C'est ça qui est c'est important parce qu'on est en train de manifester et d'annoncer publiquement qu'on veut marcher et qu'on veut être unis à Christ. Et par le baptême, je dis, oui, je le crois. Je crois que Jésus-Christ est le seul qui peut me sauver de mes péchés. Je crois que par lui, maintenant, je peux vivre pour la gloire de Dieu. Et j'ai placé ma foi en lui. Je veux vivre pour lui. Le baptême est important parce qu'on l'annonce publiquement. Et comme je l'ai mentionné, c'est un acte extérieur de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais une troisième raison pour laquelle le baptême est important, c'est parce que par le baptême, on proclame l'évangile de Jésus-Christ et le plan de Dieu pour les hommes. Non seulement on annonce ce que Christ a fait dans notre vie, mais on annonce ce que Christ veut faire dans la vie des gens. On est en train de proclamer l'évangile, on est en train de dire « Christ est mort pour nos péchés ». Il est revenu à la vie, il peut nous donner une vie nouvelle et tu peux être sauvé. C'est ça qu'on est en train de proclamer à travers l'exercice et la pratique du baptême. Et les gens ont besoin d'entendre ce message-là. Les gens qui sont perdus autour de nous, qui sont sans Dieu, qui sont dans le chemin de la perdition, qui mène à la perdition, ils ont besoin d'entendre ça. Nos familles, nos collègues de travail, nos amis qui ne sont pas chrétiens ont besoin de l'entendre. Et par notre baptême, on est en train d'annoncer l'évangile de Christ. On est en train d'annoncer ce que Dieu a fait dans notre vie, mais ce que Dieu veut faire aussi dans la vie des gens qui voient, qui sont témoins du baptême. Ainsi, le baptême nous permet d'annoncer le merveilleux plan de Dieu pour tous les hommes. Il veut que tous viennent à la repentance, que tous viennent pour avoir une nouvelle vie en lui. Il veut que tous soient réconciliés avec lui. Et par le baptême, on est en train de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et le salut qui est offert à tous les hommes en lui. Donc, le baptême est important parce que par le baptême, on proclame l'évangile de Christ et le plan merveilleux. J'avais deux autres raisons pourquoi c'est important, mais je vais arrêter là. Je vais aller maintenant à la troisième question. Qu'est-ce que le baptême a comme implication dans ma vie? Premièrement, si tu es un disciple de Christ qui a déjà été baptisé par immersion, souviens-toi que le baptême est un moment dans ta vie qui représente une œuvre qui dure éternellement. Dans notre passage de Romains 6, si vous n'êtes plus là, vous pouvez revenir, versets 12 à 14, Paul dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et maintenant, il n'y a plus de raison pour qu'on puisse continuer à vivre dans le péché. Parce qu'en étant uni à Christ dans sa mort, le vieux Alexandre et la vieille personne que j'étais a été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus cette personne-là qui devrait vivre en moi, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui devrait vivre en moi. Et puis, il n'y a plus de raison pour dire maintenant, en fait, la réponse de Paul à la question, il n'y a pas de raison, ce n'est pas, vraiment pas une raison pour continuer de pécher, parce que maintenant, c'est une nouvelle personne qui vit en moi. Et maintenant, je ne veux plus pécher. Non, au contraire. Maintenant, je suis ressuscité avec Christ. Je dois me donner entièrement à Dieu et utiliser mon corps pour être un instrument pour la gloire de Dieu. Peut-être que tu te justifies de certains péchés dans ta vie en disant simplement que c'est parce que tu es fait comme ça. J'ai souvent entendu dire... ça. Par exemple, si quand ça ne marche pas comme tu veux, tu as tendance à te mettre en colère. Tu te mets en colère, ça ne marche pas comme tu voudrais, pète une colère à ce moment-là. Peut-être que tu luttes avec ça. Je viendrai me voir, moi aussi je lutte avec ça. Fait que... Mais on pourrait se justifier en disant, c'est pas de ma faute si je suis colérique, c'est dans mon tempérament. Tu sais, la psychologie a divisé l'être humain dans plusieurs tempéraments. On peut mettre ça la faute, c'est mon tempérament, je suis colérique. Où c'est que vous voyez ça dans les Écritures, que mon tempérament me permet de pécher? Absolument pas. Je ne suis plus cette personne-là. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas colérique. Non, ça c'est l'ancien Alexandre qui est crucifié avec Christ. À la place, je suis une personne nouvelle maintenant par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Je ne suis plus comme ça. Je lutte encore. Mais ça, c'est le vieil homme qui prend la place. Et maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai le pouvoir de ne plus être comme ça. Alors, arrêtez de dire, c'est parce que je suis fait comme ça. Tu n'es pas comme ça maintenant. Tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui te rend capable de ne plus péter de colère quand ça ne marche pas. Oh boy! Je me parle bien, en tout cas. Oh, Seigneur, viens m'aider. C'est ça. En Christ, c'est la réalité. On ne doit plus laisser le péché prendre la place. Et peut-être que toi, moi je parle de la colère maintenant, mais tu connais ton cœur, tu connais les luttes que tu as. Peut-être que tu luttes avec le découragement dans ta vie. Il y a des situations qui paraissent comme toi, devant toi comme des montagnes. Découragement, c'est un péché. C'est un manque de foi en Dieu. Un manque de foi que Dieu peut la tasser de là, cette montagne-là. Tu n'as plus raison de te décourager tout simplement parce que tu es faite comme ça. Non, tu n'es pas faite comme ça. En Christ, tu as le pouvoir de mettre ta foi en Dieu et dire, Dieu va la tasser, cette montagne-là, puis je vais passer à travers. Plusieurs choses. Vous connaissez chacun de vos cœurs. Je n'irai pas dans trop de détails. Mais si tu luttes avec un péché dans ta vie, n'essaie pas de te justifier en disant tout simplement que tu es faite comme ça. C'est pas vrai. Au contraire, tu n'es plus comme ça à cause de Christ. Dieu t'a donné son esprit et a le pouvoir de surmonter le péché. Et à la place de te justifier, plutôt reviens à la croix. Reviens à Christ. Quand ça ne marche pas comme tu veux puis que tu mets en colère, c'est un péché devant Dieu, reviens à la croix. Reviens à l'œuvre de Christ qui a le pouvoir de te délivrer de ce péché-là. Reconnais que tu as péché, confesse-le au Seigneur, demande-lui pardon. Et abandonne-toi entièrement à lui. Dis, Seigneur, fais de moi un nouvel homme, l'homme que tu veux que je sois pour toi. N'essaie pas de changer par tes propres forces. Laisse Christ agir à travers toi et abandonne-toi à Jésus-Christ. Approche-toi de lui et cherche à vivre pour sa gloire. L'œuvre que Dieu a accomplie dans ta vie et que tu as manifestée par les eaux du baptême si tu as été baptisé, c'est une œuvre qui n'est pas juste un moment comme ça, mais c'est une œuvre qui perdure. C'est une œuvre que... Maintenant, je suis ressuscité avec Christ et je suis capable de vivre pour la gloire de Dieu. Deuxième implication de la signification du baptême et de son importance, et je vais conclure avec ça. Si tu es un disciple de Jésus-Christ qui n'a pas encore été baptisé, tu dois obéir au Seigneur puis être baptisé. Comme on l'a vu précédemment, c'est clair dans le début de l'Église, puis je l'ai dit, that's it, tu es cru, tu te fais baptiser. Ça ne devrait pas être différent aujourd'hui. Des fois, on attend des mois, même des années de manifester publiquement qu'on a pris position pour Christ et qu'on veut vivre pour lui. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça se peut que ça fasse un bon moment que tu sois chrétien et que pour une raison ou une autre, tu n'es pas encore baptisé. Je sais c'est quoi, j'ai passé à travers ça. J'ai été sauvé à l'âge de 5 ans. Et puis, je n'ai pas été baptisé tout de suite. C'est quand même correct pour la... pour les enfants, mais ça a attendu à l'âge de 19 ans, par exemple, pour être baptisé. Puis ça a été, mettons, un petit peu long. Il y avait des jeunes autour de moi, des chrétiens, mes amis qui étaient là à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils prenaient position pour Dieu, ils se faisaient baptiser. « Hey Alex, quand est-ce que tu vas te faire baptiser? » « Ah, pas tout de suite. » Qu'est-ce qu'il y avait en dedans de moi? C'était une crainte d'aller parler devant les gens, d'aller dire mon témoignage. Puis là, hop, l'ennemi utilisait ça pour pas que je prenne position pour Dieu. Plusieurs jeunes aujourd'hui rêvent de trouver la personne idéale pour se marier, unir leur vie et démontrer publiquement qu'ils unissent leur vie à quelqu'un. Est-ce que le mariage est plus important pour toi que le baptême? Parce que si tu veux démontrer publiquement que tu veux unir ta vie à quelqu'un, à une personne, est-ce que tu ne devrais pas vouloir démontrer publiquement que tu as uni ta vie à Jésus-Christ, celui qui devrait être le trésor de ton cœur? Qu'est-ce que tu attends? Tu as cru? Fais-toi baptiser. Démontre que tu veux être uni à Jésus-Christ. Démontre que tu veux vivre pour la gloire de Dieu. Puis fais-toi baptiser. Lorsque j'étais jeune, alors, quand je suis arrivé à l'âge de 19 ans, Guy Lavoie était pasteur d'évangélisation à Québec à ce moment-là. Puis il vient me voir, il dit « Alexandre, es-tu baptisé, toi? » « Non, pas encore. » Il dit « Qu'est-ce que tu dirais si je prendrais, on va regarder ensemble, on va prendre du temps ensemble, on va regarder c'est quoi le baptême, c'est quoi l'implication du baptême. On va t'aider à préparer ton témoignage, puis tu vas te faire baptiser. » « Ah oui, ça, je veux faire ça. » Et puis ici à l'église, on fait la même affaire, la même chose. Monsieur Saint-Pierre prend du temps avec ceux qui veulent se faire baptiser, prennent un temps, se préparent pour le baptême, peuvent donner un témoignage et s'aider à structurer tout ça. Donc, il n'y a plus de raison. Il n'y en a pas de raison. C'est l'ennemi qui essaie de te donner des raisons pour pas que tu le montres publiquement que tu veux te faire baptiser, que tu veux obéir à Dieu. Donc, obéis au Seigneur. Fais-toi baptiser. Attends pas. Le baptême, pour terminer, c'est plus qu'un rituel. On l'a vu ensemble, c'est la représentation de l'œuvre de l'Évangile dans le cœur du croyant. Il démontre physiquement, extérieurement, un changement qui a eu lieu dans le cœur du croyant. Il permet de proclamer de manière visuelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. N'oublions pas la signification du baptême et son importance. Continuons comme Église d'observer ce commandement du Seigneur en baptisant ceux qui ont cru à l'Évangile. Et si tu as cru et que tu n'as pas encore été baptisé, attends pas, obéis au commandement du Seigneur. Fais-toi baptiser, démontre publiquement que tu veux être uni à lui. Donnons-nous à Dieu tout entier et glorifions-le par notre vie. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, combien est grand le salut que tu as accompli pour nous. Par ta mort à la croix, tu as donné ton corps en sacrifice pour nos péchés. Le châtiment de Dieu que je méritais est tombé sur moi, est tombé sur toi. Tu as accepté de vivre cette mort atroce à cause de mon péché. Et maintenant, par ce sacrifice parfait, je peux recevoir le pardon de mes péchés. Seigneur Jésus, tu es aussi ressuscité des morts et par ta résurrection, tu as démontré que tu avais le pouvoir sur la mort, que tu avais le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Un jour, tu m'as ouvert les yeux pour que je puisse comprendre que j'étais perdu. Seigneur Jésus, merci. Merci de m'avoir sauvé, d'avoir fait de moi ton enfant. Et aujourd'hui, je veux dire à tous autour de moi combien ton amour est grand et comment ils peuvent obtenir le salut en toi. Seigneur, je connais plusieurs personnes dans cette salle qui ont placé leur foi en toi pour leur salut, mais qui ne l'ont jamais démontré publiquement par le baptême. Viens placer dans leur cœur un désir de t'obéir et de dire à tous ceux qui les entourent qu'ils ont fait ce choix de s'unir à toi dans ta mort et ta résurrection. De déclarer qu'ils sont maintenant morts au péché, qu'ils désirent marcher en nouveauté de vie, main dans la main, avec le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Que nous puissions voir plusieurs proclamer leur union à toi et dire « Oui, je le crois ». Par le baptême, Seigneur, tu nous as unis à toi. Nous sommes maintenant un avec toi. Mais tu nous as aussi donné le privilège de pouvoir partager cette union en toi avec des frères et des sœurs, qui eux aussi ont été unis à toi. Merci Seigneur Jésus de ce lien qui nous unit. Merci de nous avoir libérés du péché, de nous avoir donné une vie nouvelle. Par ta grâce, viens faire de nous des hommes et des femmes qui brûlent d'un amour sincère et vrai pour toi, dans nos relations, dans nos actions et dans nos pensées. C'est pour ta gloire que nous voulons vivre. Nous te demandons ceci au nom de Jésus. Amen.